bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Soyez les bienvenus avec les Lacan de Poudé.
Bonjour à tous.
Agnès, Austin, Daniel Morin.
Bonjour Agnès.
Albert Algoul. Tout à l'heure, Tanguy Pastureau.
Salut.
Et notre invité, Monsieur Philippe Besson.
Philippe.
Tout va bien, Philippe ?
Tout va très bien. Merci.
Merci de venir nous parler de ce Paul Darrigan. Votre.
Grand.
Darrigan. Ah oui, Darrigan, oui. Je pense à ma patronne,
ouais.
En fait, à français.
Ah oui, c'est ça.
Darrigan.
Il s'appelle Paul aussi.
Non, mais il s'appelle Darrigan et pas Darrigan. Mais là, c'est Paul Darrigan. C'est son vrai nom, d'ailleurs ?
Non, bien sûr que non. J'ai changé le nom.
C'est pas drôle.
Bah, sinon, comment il s'est retrouvé ? Vous auriez fait. C'est ça, l'infâme Albert Algoul. Aurait déjà fait une enquête minutieuse.
Je l'ai faite.
On me dirait, tiens, il arrive, il est là.
Ah mais c'est vrai que je suis en train de réaliser que ma patronne aussi s'appelle Darrigan. C'est exactement
Grand,
pareil,
Nathalie,
ouais, c'est pareil. Nathalie, que j'embrasse. Donc Philippe Besson, ce certain
tu
Paul...
Tu m'étonnes que tu l'embrasses.
C'est certain... Oui, j'ai intérêt à l'embrasser.
Très fort, très fort, très très fort, très très fort.
Oh, je veux des galinous. Un certain Paul Darrigan. On va parler donc de ce roman. C'est votre combien-tième d'ailleurs ?
19e.
Oh là là là
19e. Comme mon âge, 19 ans.
Est-ce que c'est votre 19e liaison amoureuse ? Parce que j'ai l'impression que dans chaque roman, il y a une nouvelle liaison.
Alors. Non, c'est pas ma 19e liaison amoureuse.
Il y en a plus, il y en a beaucoup plus.
Il y en a plus. Je suis un garçon extrêmement sage. Non. Mais certaines de ces liaisons apparaissaient en filigrane dans d'autres romans. Et là, elles sont racontées directement, sans phare et sans filtre. Oui.
Exactement. Une histoire d'amour passionnelle. Vous aviez une vingtaine d'années. Histoire d'amour qui a des contraintes. Première contrainte, d'abord, vous êtes l'amant qui vient mettre un peu la zone dans un couple. Établi, existant et installé, même à une vingtaine d'années. Arrive aussi une maladie qui vient chambouler tout ça. On va en parler dans quelques instants avec vous, mais en tout cas, il est extrêmement agréable à lire ce roman, d'autant plus agréable qu'il nous replonge dans une période de l'année 88. Il nous replonge aussi bien musicalement qu'historiquement avec les faits divers, ouais. Avec les films aussi.
C'est la bande originale de l'année 88.
Exactement, ouais. Et c'est vraiment extrêmement agréable à lire. On en parle dans quelques instants, mais d'abord, est-ce que... Vous connaissez bien Monsieur Philippe Besson.
Oh bah par cœur.
Prouve-le. De quoi a besoin Philippe Besson pour commencer l'écriture d'un livre ?
La géographie, un lieu.
Exactement.
Les passants de Lisbonne, tout ça. Ouais.
J'ai besoin de savoir où ça se passe, l'histoire. Je peux pas écrire un livre comme ça, en suspension. J'ai besoin que ça soit ancré dans un territoire, une géographie, et souvent une géographie intime. Là, avec Paul Darrigan, c'est Bordeaux, puisque j'ai été étudiant à Bordeaux et que je me souviens très bien de cette époque-là. Et puis c'est aussi un peu l'île de Ré qui apparaît aussi en filigrane dans beaucoup
un
de mes...
Un petit peu Rouen qui en prend pour son grade.
Hein. À Rouen, c'est un peu le Niort.
Et du coup,
parce que Houellebecq a canardé Niort. Et moi, on me dit que j'ai été méchant avec Rouen. Non, mais en fait.
Avec Rouen, mais j'imagine que si vous êtes dur avec Rouen, c'est par rapport à vos histoires, à votre situation.
Merci.
Donc j'imagine que Houellebecq a été très triste.
Disait Rouen, c'était...
Merci infiniment.
Et je pense que Houellebecq a été très triste à Niort. Il a pris un râteau.
Mais tout le monde est triste à Niort.
Mais bien sûr,
même les Niortais sont tristes à Niort.
Il est là, c'est qu'effectivement, vous vous souvenez de cette période de votre vie, vous dites, c'est vrai que j'ai pas été très heureux à ce moment-là, et donc du coup, la ville où vous vous trouviez,
évidemment, le cadre,
en prend pour son grade,
évidemment,
absolument.
Évidemment.
Mais j'embrasse les Rouennais, bien sûr, les Rouennaises.
S'ils achètent le livre, surtout. Est-ce que le...
Vous attendent.
Avec des fusils.
Est-ce que le lieu, presque la météo, j'ai envie de dire, ou la saison, joue aussi, va de son influence. On pense à l'île de Ré. Ouais. Là, on est plutôt, c'est plutôt l'hiver, ouais. On est à la veille de Noël, et vous avez même survendu l'île de Ré à vos potes et vous arrivez dans une maison où ça n'accroche pas tant que ça.
Mais oui, parce que moi, je connais extrêmement bien l'île de Ré. J'y ai passé une grande partie de mon enfance et mon adolescence, parce que Charentais, le littoral le plus proche, c'était effectivement l'île de Ré. Donc moi, j'allais même dans l'île de Ré en prenant le bac. Mes premiers souvenirs, c'était effectivement de prendre le bac de l'île de Ré allait de la Palisse à Sablanceau.
Vous dites même que l'attente, le désir était important.
Absolument. On attendait des heures, on faisait la queue comme ça, parce que on n'était pas 17. 17, c'est la Charente-Maritime. Donc on devait attendre, on n'était pas prioritaire.
Ah oui, et
voilà.
Charentais, inférieur et supérieur.
Absolument. Et donc, mais même cette attente était jubilatoire parce qu'on savait qu'on allait avoir cette délivrance et ce bonheur de retrouver l'île de Ré. Voilà.
Comme quand on déballe un cadeau.
Absolument. Et donc, j'étais très heureux de ça. Et donc, je leur explique à mes potes que ça va être formidable. Sauf qu'ils arrivent, il y a un crachin épouvantable. On est juste avant Noël. Donc, ils disent, tu nous as un peu survendu le truc. Oui. Voilà. Mais ça allait bien avec l'âme romantique et torturée qui était la mienne à ce moment-là aussi.
C'est comme les gens qui sont excités à l'idée de faire une émission sur France Inter et j'arrive ici. C'est le crachin de France Inter, c'est là.
C'est toi. Voilà. Philippe Besson n'en fait pas. Il s'agit de quoi?
N'en fait
du
pas.
Du vélo. Des caisses.
Du ski.
Non.
Sport.
Ah bah voilà, exactement, ouais, t'as bien résumé, parce qu'il y avait vélo, il y avait ski, il y avait tout ça, mais je voulais entendre sport. Vous sport. N'aimez pas l'activité physique pour non. l'activité physique.
Non, j'ai toujours été nul en sport, j'étais calamiteux, mais vraiment calamiteux, c'est dramatique. Genre le lancer de poids au bac, il est tombé sur mon pied, hein, le poids, donc...
Ça peut toujours faire rire.
Voilà, que, oui, mais... ça fait rire d'ailleurs les gens, moins quand j'ai reçu ma note, mais... Donc en tout cas, non, j'ai une incapacité absolue à faire une activité physique, mais je marche.
Comme vous aimez, ce qui est déjà une activité physique, comme vous aimez les corps musclés, les corps de surfeur, les abdominaux et les fesses rebondies, il y a bien un moment où vous pouvez aussi vous dire, et si je proposais un tel spectacle aussi?
Non, en fait j'ai compris que ça ne servait à rien, qu'il ne fallait pas rentrer dans la compétition. Parce que je perdrais.
C'est pas une compète.
Ah, chacun son truc.
Et chercher à être gaulé quand même, c'est quand même essentiel.
Non, en fait non, j'ai admis d'emblée, que ce serait comme ça. Non mais au fond... Ça signe assez bien mes relations aux gens. C'est-à-dire que je me suis toujours vu comme quelqu'un, voilà, qui a pas de charme, qu'on regarde pas particulièrement, qui est sans aspérité, qui est ni beau ni moche, mais etc.
Plus pour bosser.
Non. Et du coup, avec Paul Darigan, ce que je lui dis à un moment, je lui dis, mais pourquoi m'avoir choisi moi? Parce que franchement, et il me répond un truc qui au départ me surprend. Il me dit l'intelligence. Alors, je me dis franchement, être choisi pour son intelligence, on préférerait effectivement être choisi pour ses abdos. Bon.
Pourquoi vous opposez l'un à l'autre?
Bah, je sais
regardez
pas,
parce Nagui, il a tout.
Parce qu'on a envie de parce qu'on a envie
les
de plaire.
Les abdos, l'intelligence.
Parce qu'on a envie de plaire. Et puis parce qu'à 20 ans, on est dans la sensualité, dans le jeu des corps et tout ça. Et puis finalement, il finit par me dire cette phrase qui m'est restée. Il me dit finalement, c'est assez bandant l'intelligence. Et mais a priori, je crois que c'est vrai.
Ça, on est totalement d'accord. Mais je ne vois pas pourquoi opposer l'un à l'autre. Et puis même, il y avait déjà un gymnase aussi dans votre précédent roman.
Absolument. On ne faisait pas du sport dans le gymnase, si vous vous souvenez
non,
bien.
Non, non, non.
Mais.
Bon, il aime pas le sport, il aime pas le sport.
Non. Désolé, j'aimerais vous dire oui, mais non.
Et même à regarder, vous n'aimez pas non plus.
Ah si, j'adore ça. Je trouve que pour le coup, ça, c'est
un spectacle.
Ah oui, c'est vraiment
une dramaturgie. Du sport.
Oui, et puis il y a de la beauté, il y a de la grâce, il y a de la puissance, il y a de l'énergie. Ah non, je suis un grand spectateur de ça. J'adore la gymnastique, par exemple.
Je pense que le formidable. Sport procure aussi des émotions que l'on ne peut pas spécialement décrire.
Absolument.
C'est-à-dire que peut ressentir un sportif qui, aux Jeux Olympiques, sur 100 mètres, c'est-à-dire en moins de 10 secondes, va avoir sa vie qui va basculer et qui est le résultat d'années
déjà de 4 ans
d'abnégation.
Quand il était minot, il commençait déjà à courir. Et ça
la dopeur, parce qu'il joue l'échéance sur 10 secondes.
Ça. Et ça se joue en 9 secondes 99. Ouais. Donc on peut comprendre ceux qui hurlent et qui continuent de faire 400 mètres de tour de terrain de joie.
Moi je comprends. Ouais. Mais je comprends la ferveur, l'engagement, l'énergie,
chanteur,
la puissance.
Un chanteur ne peut pas ressentir ça sur scène, parce que ceux qui sont dans un stade de 80 000 personnes sont venus et ont payé pour le voir. Un comédien au théâtre ne peut pas ressentir ça, parce que tous les soirs il reproduit un spectacle et se répète. Je ne connais pas d'autres poussées d'adrénaline comme ça.
Ce côté performance unique, éphémère, qui disparaît très vite et qui marque aussi l'histoire.
Qu'est-ce qui dérange le plus Philippe Besson quand il écrit?
Le bruit?
Non.
L'obscurité?
La présence de quelqu'un?
Alors, pas loin.
Son chat.
Exactement. Léo.
Léo, oui. Dites-nous, vous êtes bien renseigné.
Il vous dérange? Il m'a appelé, il m'a dit.
Il a déjà marché sur le clavier.
Mon petit Léo. Il marche sur le clavier, bien sûr. Il marche
pourquoi
sur le clavier,
vous le faites pas euthanasier?
C'est le premier mon Léo, je t'embrasse.
Mais s'il dérange?
Non.
J'embrasse le chat quand même.
J'embrasse
pas mal.
Mon chat, bien sûr. C'est un Maine Coon.
Il écoute.
Il est assez.
Ah, il est touffu.
Oui, il fait 9 kilos. Et encore, moi, c'est un petit Maine Coon.
C'est un puma, 9 kilos.
Ah ouais. Au prix du mètre carré à Paris, il prend de la place, quoi.
J'avais les moyens.
Et alors, pardon, est-ce que le chat est pour vous l'animal par excellence, justement, qui va avec l'auteur, l'écrivain, l'intelligence?
J'ai pas du tout pensé à ça au départ. On le dit, évidemment, la tradition des chats et des écrivains. Ouais. Non, c'est pas du tout pour ça que j'ai.
Et des célibataires.
J'ai pris un chat à un moment.
Dès qu'une fille vous dit j'ai un chat, vous pouvez être sûr qu'elle est célibataire derrière.
Ah oui, c'est ça.
Ouais.
Ah oui.
Bah généralement, oui, les filles célibataires ont un chat.
Ont un chat. Bon, d'accord, très bien.
Et
donc moi, j'ai pris un chat et je suis devenu le plus heureux des hommes. Ça m'a apaisé. C'est bizarre ce que je suis en train de dire. C'est effrayant.
C'est votre premier chat?
Alors, j'ai eu des chats quand j'étais enfant et adolescent.
Ceux-là, vous les avez euthanasiés?
Ils sont morts de leur belle mort, Daniel. C'est pas possible.
On peut faire un coup de
monstre.
Là, c'était le vôtre. Là, c'est le vôtre.
Et là, c'est
vraiment
le mien. Et je suis. Il m'apaise. Il me.
Oui, mais voilà. Il marche sur le clavier quand vous écrivez.
Il marche sur le clavier quand j'écris. Et il se couche devant moi. Devant moi sur le bureau. Et donc, j'écris avec lui. Et de temps en temps, quand il trouve que c'est un peu long, il vient sur le clavier pour me dire d'arrêter d'écrire. Voilà.
Vous faites du lancer de poids, donc. Voilà.
C'est ça. Pourquoi Philippe Besson n'a pas été publié chez Albin Michel?
Parce qu'il y avait un homonyme. Besson, on lui a demandé de changer de nom.
Patrick. Ouais. À cause de Patrick Besson, parce qu'effectivement, on m'a demandé de changer de
nom. Qui est ce Patrick Besson?
Un journaliste écrivain.
Connais pas. Non, bah non, ça saurait.
Mais on s'est presque réconciliés, lui et moi. N'exagérons pas, hein. Il faudra moins de 20 minutes avant qu'il écrive à nouveau une horreur sur moi. Mais ceci étant, je, à l'époque, on m'a dit, il y en a un dans la maison, donc c'est pas possible. Et je me suis dit, je peux pas changer de nom, parce que c'est le nom que je tiens de mon père. Donc j'allais pas arriver comme ça avec un autre nom que celui que m'avait donné mon
évidemment,
père.
Évidemment, puis maintenant, vous êtes le meilleur auteur.
Si vous le dites.
Appelant Besson, je le dis, je confirme. Philippe en a toujours sur lui, Philippe Besson a toujours sur lui.
De la coke.
Oui. Alors,
ça, j'étais sûr.
Ça, l'aspirine.
Des croquettes.
Des préservatifs.
De la weed, mais des huiles essentielles.
Non.
Des timbres.
Exactement.
Ah, absolument.
Ah, oui,
des timbres. Parce que je continue à écrire des lettres.
Mais vous êtes le seul au monde.
Je suis le seul au monde.
Non, c'est pas vrai. Moi, j'écris des lettres encore.
Ah, merci.
Oui. Et puis surtout, on peut écrire des lettres et pas forcément avoir un timbre.
Si.
À la poste.
Bah
non,
justement.
Tu peux.
Ah oui, non. Bah non, parce que je les écris chez moi, je poste en bas dans la petite.
Dans la boîte.
Et donc, j'ai toujours ça sur moi. Parce que je continue à écrire des lettres assez. J'aime bien l'idée du geste. J'aime bien l'idée du papier. J'aime bien l'idée du temps qu'on met à écrire, et j'aime bien l'idée du temps qu'on met à recevoir la lettre. En fait, on est dans une époque de l'instantanéité.
Ouais.
Aujourd'hui, vous écrivez un mail, il est reçu tout de suite, et même, vous vous affolez, vous envoyez un texto pour dire « t'as bien reçu mon mail », donc c'est atroce. Enfin,
ce qui est atroce, c'est que le mail ou le texto a valeur de lettre recommandée,
oui,
accusée de réception.
C'est ça. Ça prouve qu'on a envoyé. Voilà. Et moi, j'aime bien l'idée que ça va prendre du temps et qu'on n'est même pas sûr que ce soit arrivé. Et donc ça, cette attente et cette incertitude, ça me plaît infiniment.
Ça vous est déjà arrivé d'envoyer une lettre en demandant si on avait bien reçu votre texto?
Je devrais y penser.
Ouais. Est-ce que l'idée du parfum de la lettre et de la calligraphie accompagne aussi?
Alors non, pas le parfum.
Le choix du papier.
Mais comment? La qualité du papier, le choix du papier.
C'est une contrepétrie? Non.
Le choix du papier, le grammage, parfois la couleur du papier.
Non, mais la calligraphie, oui.
Oui, absolument.
Parce qu'on peut déceler une nervosité, une détente,
une lettre anonyme.
Vous écrivez toujours des lettres anonymes, Albert.
De la
vous tournez dans les journaux, dans Je suis partout, vous découvrez tout ça.
Le fameux Je suis partout, quelle horreur.
Bien sûr.
Quelle horreur. Quelle référence monstrueuse. Oui, mais il fallait le préciser. Parce reprise, ça peut devenir quelque chose de monstrueux.
Atroce.
Une destination préférée.
L'Italie.
Oh, j'ai même pas le temps. Ok, d'accord. Ça, c'est fait.
Comme quoi, tout ça est pipé.
Mais non, pas du tout. Mais c'est.
J'ai déjà reçu des textos avec. Est-ce que Leïla a les réponses?
C'est
avant,
vrai. Non, mais parce que on a quand même reçu Philippe pour un certain nombre de ses romans. Donc, du coup, à force.
Une fois tous les 6 mois.
Je vous connais. Chaque année.
C'est pas notre faute. C'est lui qui écrit.
Ouais. Donc chaque année, je commence à voir un petit peu le personnage.
L'Italie, oui.
L'Italie auquel vous trouvez quelle qualité?
Alors en fait, oui, c'est vrai que c'est difficile de lui trouver des qualités en ce moment parce que son gouvernement ne nous aide pas à lui en trouver et ne nous aime pas beaucoup, j'ai cru comprendre, nous les Français. Mais pour autant...
Sommes extrêmement proches.
Nous sommes extrêmement proches, c'est ça. Nous sommes latins, nous partageons la même culture, le même goût à plein d'égards. Voilà, j'aime l'Italie, j'aime la Toscane, j'aime la Sicile, j'aime les paysages, j'aime la folie aussi, j'aime l'exubérance, j'aime la mauvaise foi, j'aime même la brutalité.
Parce que j'ai dit, est-ce que vous aimez
les voix
dans les cours intérieurs d'immeubles qui
hurlent, le linge aux fenêtres, les gens qui crient pour se parler alors qu'ils se parlent d'une fenêtre à une autre et qu'ils se parlaient normalement, ils s'entendaient très bien.
Ouais.
J'adore cette espèce de truc qui continue d'exister. J'adore les mecs gominés sur les scooters qui regardent le cul des filles, ce qu'on a plus le droit de faire,
etc. Toujours très élégant.
Je trouve ça. Ouais. Ça dit quelque chose encore.
Quel
voilà.
que soit leur niveau dans la société et leur capacité financière, il y a toujours une élégance chez l'Italienne ou chez l'Italien, parce que même pour aller acheter la baguette ou n'importe
absolument.
Quoi.
Berlusconi,
c'est la classe. Non, mais c'est la.
Ils font attention
chic.
À leur apparence,
ils
etc.
Bien.
Et puis j'aime bien aussi chez les hommes italiens ce côté un peu virilité qu'on nous montre et qui rentre quand même quand la maman appelle, quoi. C'est-à-dire, côté, j'obéis quand même. Donc la virilité.
Est-ce qu'on y rajoute à cela la nourriture, la cuisine à l'huile d'olive, enfin ce qui va avec.
Non, mais oui, bien sûr, la pasta et tout ça, on mange très 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 bien.
D'accord.
Sans trop grossir d'ailleurs, je trouve.
Ouais. Non, parce que les pâtes ne font pas grossir, contrairement à ce qu'on pense. Voilà. C'est ce qu'on y rajoute autour.
Parlons. Faut passer un kilo quand même.
Non.
Non.
Bah non. Tu peux manger autant de pâtes que tu veux et tu peux même le digérer beaucoup plus vite que la viande que tu manges. La viande faisant de à peu près 3 jours dans ton corps, alors que les pâtes, tu vas les digérer en quelques heures. Si elles sont al dente, il faut qu'elles soient al dente. On peut maintenant parler. Oui, la viande faisante, mon cher.
Dans moi.
Le roman.
Chez Julliard. Donc, ce certain Paul Darry Grand, avec. Vous souhaitez, vous le dites d'ailleurs, vous aimez revenir sur ce que vous appelez des épisodes occultés. En déménageant, en fouillant dans des cartons, en retrouvant des photos, vous retombez. Ce qu'on ne fait plus là aussi, on parlait de modernité avec les téléphones. Où on a toutes nos photos maintenant numérisées que l'on regarde plus. Là, l'histoire de la vieille photo
dans la
boîte à chaussures.
Absolument. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, je déménage et donc je tombe sur cette boîte à chaussures qui est en haut d'une armoire qu'évidemment je ne suis pas allé voir depuis une éternité. Et parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne prend plus de photos. Enfin, on en prend en l'occurrence avec son téléphone portable. Donc, il n'y a plus le document photo rangé dans cette boîte à chaussures. Et je vois les deux garçons sur cette photo ancienne qui date de la fin des années 80. Je reconnais immédiatement, évidemment, les deux garçons. J'avais oublié que cette photo existait, presque qu'elle avait été prise. Et en même temps, voilà, à ce moment-là, tout me revient. C'est ça qui est assez fascinant. C'est que la photo vous redonne la mémoire. Elle vous fait vous souvenir avec une exactitude confondante de ce moment-là, de cette circonstance-là, de la lumière qu'il y avait, du temps qu'il faisait, de comment vous êtes vous. Et je vois... Voilà, Paul, ce jeune homme flamboyant avec un charme fou, puis moi à côté, plus petit, avec mes lunettes en buée, et je me dis bon.
Naît tout un raisonnement de se dire pourquoi sont-ils à telle distance l'un de l'autre, qui est gêné, est-ce que c'était avant ou après que nous nous aimions, est-ce que c'était le matin, l'après-midi, le soir, et qui a pris la photo, et comment l'avons-nous choisi, c'est-à-dire que d'un coup,
il y a une enquête autour de la photo pour essayer de comprendre
sur un regard, qu'est-ce qui se cache.
J'adore ça. J'adore l'idée.
Et d'ailleurs, vous employez le terme de occulter, ce qui sous-entend aussi que quelque chose a été volontairement caché ou masqué.
Bah bien sûr, parce que de toute façon, en plus, cette relation dans laquelle je vais me lancer avec Paul Darry Grand va être une relation clandestine. C'est-à-dire que c'est une relation qui se joue à l'abri des regards, qui se joue dans l'ombre. Moi, je suis assigné à l'ombre, je suis assigné à la nuit. Ça ne doit pas se savoir. D'ailleurs, c'est une question terrible, parce que c'était déjà au cœur de Arrête avec tes mensonges. Il y a l'idée que on ne peut pas m'aimer au grand jour. Pour m'aimer, il faut que ça soit caché. Donc, ça veut dire quelque chose, sans doute. Bon.
Ou que vous choisissez aussi
ou que je choisis peut-être effectivement des amours
qui
de cette nature.
Ouais.
Absolument. Et c'est vrai que la photo est la preuve tangible que quelque chose a existé. Donc, je peux dire, ça a existé puisque c'est là, figé sur la photo, puisque nous avons sauvé quelque chose de ce temps où nous ne sommes plus, pour reprendre la phrase de d'Annie Ernaux. Mais en même temps, sur la photo, on ne peut rien savoir vraiment. C'est juste deux garçons. Après tout, ça pourrait être deux garçons qui se connaissent à peine.
Ça peut être
deux copains. Et donc, derrière cette apparente innocence, est-ce qu'il n'y a pas une forme de transgression, de culpabilité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue derrière l'image?
Alors,
j'adore cette phrase aussi de Prévert qui est quand je peins un nageur, je peins en l'occurrence un noyé, je vois déjà le noyé. Il y a ça. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière la photo en fait?
Vous employez aussi, vous remarquez que c'est étrange de se revoir jeune. Il y a une part de nostalgie, il y a un petit truc qui pique quand même les yeux
c'est terrible.
De repartir.
Quand on arrive encore à voir.
mais c'est dire comme ça 30 ans d'arrière.
On est renvoyé à sa propre jeunesse, on est renvoyé à quelqu'un qu'on n'est plus.
Ouais.
On est renvoyé à quelqu'un qui a disparu. C'est-à-dire qu'on sait que ce jeune homme-là sur la photo, c'est nous. Bien sûr, c'est nous. Mais c'est plus nous du tout. C'est-à-dire ce jeune homme-là, il a existé et il a disparu. Et en même temps, c'est intéressant.
Vous allez loin, parce que vous dites la nostalgie. Nostalgie fait plus de mal que de bien.
Oui, mais parce qu'en fait, vous vous dites, est-ce que je l'ai trahi, ce jeune homme-là, ou est-ce que j'ai tenu les engagements qu'il a pris à ce moment-là? Est-ce que si je le regardais aujourd'hui, je pourrais le regarder dans les yeux, ou est-ce que je serais un peu embarrassé, un peu gêné? Et puis en même temps, ce jeune homme, il est à l'orée de sa vie, il sait pas ce qu'il attend, il sait pas ce qui va arriver, donc il y a une forme d'innocence, d'insouciance, de légèreté, de désinvolture, et tout ça s'est perdu aujourd'hui. Il y a effectivement de la gravité, de la frustration, des désirs contrariés. Bon, et donc c'est intéressant de voir avec le recul des années. Et en même temps, ça vous fait prendre justement conscience de ce temps qui s'est écoulé, de ce qui ne sera plus.
Alors cette histoire, j'ai presque envie de dire, il y a deux temps dans le livre, deux périodes. La première période, vous êtes l'amant d'un couple et donc celui qui doit se cacher, oui. celui qui est dans l'illégalité entre oui. guillemets, et que ce soit les copains à la fac, que ce soit évidemment l'autre dans le couple, vous immiscez et vous culpabilisez presque d'aimer aussi celle qui constitue le couple avec Paul, parce que vous sentez coupable de foutre en l'air un peu leur histoire qui semble très belle comme ça sur le papier.
Oui, c'est-à-dire que je tombe amoureux instantanément de ce Paul Darigrand parce qu'il se plante devant moi en formulant un mensonge éhonté, magnifique, sublime, et en quelques secondes, je suis déjà épris.
Foutu.
Et foutu, franchement, foutu.
Ça sent.
À la première seconde, c'est déjà fini dès le départ, et je découvre peu de temps après qu'il est marié, ce qui est évidemment un petit obstacle quand vous essayez de tomber amoureux de quelqu'un, c'est toujours embêtant. Bon,
avec une femme.
Et marié à une femme, puisqu'à l'époque on pouvait se marier qu'à des femmes. Donc l'idée c'est de se dire comment cette histoire va être possible. Et après je rencontre la femme en question et j'ai juste envie qu'elle
elle
soit
top.
Atroce
ouais,
et elle ça. Est formidable. Bah, ouais. C'est-à-dire tout d'un coup c'est supposé être ma rivale et je tombe devant quelqu'un qui a toutes les qualités
qui
au monde,
qui est pétillante, accueillante,
qui est drôle, qui est spontanée, qui est énergique, qui a de la ferveur,
qui est gentille avec vous,
voilà,
en fait,
qui est adorable avec moi, ouais. Qui est infirmière en psychiatrie, ça. Et donc en plus j'adore m'occuper de mes fous. Enfin, une femme qui dit ça, on a envie de l'aimer tout de suite. Donc c'est compliqué évidemment d'aimer le mari de cette femme-là.
Vous employez des termes extrêmement forts sur l'adultère. Vous dites qu'elle est bafouée. Vous employez le terme de victime, offensée, trompée. Enfin, c'est-à-dire que c'est très insultant. D'ailleurs, votre définition votre vision de l'adultère, elle est extrêmement
oui,
violente,
parce que je trouve
pour la femme trompée.
Oui, pour la femme trompée, parce que effectivement, il y a un contrat qui a été passé entre deux, et le contrat, il y a un coup de canif qui lui est porté quand même.
Non, mais je pense à ça parce que la semaine dernière, on a discuté de l'adultère et du couple avec Philippe Solers, qui disait quand on aime quelqu'un, on doit aimer aussi qu'il en aime d'autres.
Oui, oui. Ah non, mais moi, de mon point de vue. Paul non seulement il a le droit d'aimer quelqu'un, mais en plus la personne qu'il aime, il l'a aimé avant moi, donc je lui en veux pas d'aimer quelqu'un d'autre que moi.
C'est plus facile dans ce sens-là.
Grand seigneur.
J'accepte que tu sois marié.
C'est un état de fait, donc j'admets cette situation. Je peux rien contre. Bon, mais c'est vrai que je trouve que lui, il a passé un contrat avec elle et qu'il respecte pas complètement les termes du contrat, donc ça fait de moi peut-être un type un peu moral. C'est rien, mais oui, j'ai l'impression qu'il est que lui, il aurait des raisons de culpabiliser, en tout cas.
Et vous parlez même de saloperie en disant être inférieur.
Ah oui, ça c'est
terrible. En amour, expliquez ça parce que c'est.
Ah oui, parce qu'en fait,
l'infériorité en amour est une vraie saloperie.
Mais oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me découvre dans la dépendance amoureuse, dans la soumission amoureuse. Rien ne dépend de moi. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui choisit les moments. C'est lui qui choisit les circonstances. C'est lui qui décide quand on se voit ou quand on se voit pas. C'est lui qui décide que ça ne doit pas se savoir. Et moi, j'obéis. J'obéis à tout. Et donc, les moments ne sont que des moments volés. Les regards ne doivent être que des regards vite détournés.
On peut dire que ça rajoute une densité à l'histoire amoureuse, alors que la quotidienneté apporte une banalité et tue quelque chose.
Absolument. Donc c'est vrai que ce qui est bien, c'est quand ça se joue comme ça dans la clandestinité, on a l'impression d'un truc à part qui n'appartient qu'à nous, totalement singulier, parfaitement original et un peu, voilà, il y a un frisson qui est formidable.
Mais l'insatisfaction
demeure, la frustration demeure, l'idée de ne pas pouvoir dire je l'aime. Voilà, c'est lui et je l'aime. Et donc, c'est assez violent d'être réduit au silence.
On va continuer d'en parler. Un certain Paul Darigrand, c'est chez Julliard. Et je le dis, évidemment, c'est l'histoire d'amour entre deux garçons, mais j'aime bien aussi le présenter comme étant l'histoire d'un amant au sein d'un couple.
Oui.
Parce que, pardon, si c'était l'histoire entre un homme et une femme, mais avec l'amant et le couple,
c'est la même chose.
On aurait la même histoire.
Absolument.
Avec peut-être, parce qu'il faut se remettre aussi dans la période des années 80, un autre regard aussi de la société sur deux hommes qui s'aiment, notre regard autour du sida, autour de la maladie, autour de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, et des condamnations morales qui viennent en rajouter une couche.
Absolument.
Notamment pour la deuxième partie du livre, autour de la maladie. On en parlera tout à l'heure, mais c'est agréable à lire en tout cas.
Merci.
Philippe, bravo pour ce style et cette fluidité, y compris tout ce à quoi ça nous renvoie. Et ça va, mon père Almer.
Mais oui.
Évidemment, être un succès.
Je suis d'accord avec vous, ça va être un succès. C'est un très beau roman, cher Nangui. Et tout comme moi, les auditeurs de France Inter, coco les auditeurs, ils sont...
Ils vous écoutent.
Coco.
Coco.
Les auditeurs, c'est bien, vous répondez.
Ils ont une voix, oui.
Les auditeurs sont sensibles à la démarche des jeunes en recherche ou des anciens jeunes en recherche, comme le narrateur. Mais non, j'ai dit la vérité. Comme le narrateur du roman de Philippe Besson, qui n'est autre que toi, Philippe Coco, Philippe.
Coco.
Des jeunes en recherche de reconnaissance et d'amour. Alors, ce qui passionnera les lecteurs de un certain Paul Drégrin, c'est de découvrir que lorsque cette quête d'amour se gâte en une excitation des passions, en une concupiscence coupable, la volupté a immanquablement pour revers la souffrance et la douleur. Alors le corps, ce temple de l'esprit, comme disait saint Paul, le corps se met en une répugnante boule de vis complètement détraquée, boule qui roulera d'autant plus vite vers l'abîme de la perdition que telle une bagnole au frein qui lâche, ce corps, pardonnez-moi cette métaphore automobile, ce corps verra ses plaquettes irrémédiablement s'user avec épitaxie, thrombopénie, scintigraphie, bolus et splénectomie à la clé. À moins d'un miracle, à moins d'un renoncement à la débauche, à moins d'un exorcisme flash auquel, faute de temps, je ne pourrais pas procéder sur toi, Philippe. J'en suis désolé, tu t'en tires bien. Hein? Alors je m'emporte, Nangui. Néanmoins, j'ai aimé cet ouvrage élégiaque, car il me reporte à la période 88-89, dont il cite des événements musicaux majeurs qui ont marqué ma vie et celle de mes scouts, qui sont, comme le disait Daniel Morin tout à l'heure, la bande originale de cette époque, Bamboléo. Sign your name. Souvenez?
Vous avez dit quoi après?
Sign your name de Terence Trent D'Arby. Vous l'avez pas ça?
Il est sourd.
Je suis sourd.
Il est sourd.
Man in the Mirror de Michel Jackson.
Ah oui.
Man in the Mirror.
Bah oui, mais enfin, dit comme ça, comment tu le reconnais ça?
Ça, je l'ai entendu celui-là. Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman.
Puisque l'ombre
regarde. Fait chialer,
t'as envie de chialer, ça.
J'ai pas la force.
Il y a aussi pour toi Arménie, de Charles Aznavour. Sans oublier ce clip où Madame Niagara Muriel, dans une tenue véritable défi à la décence, s'abandonne au feu diabolique de la danse en exaltant l'amour à la plage. Oh, cha-cha-cha. Baiser, coquillage, oh, oh, et sable dans l'arrêt, oh, ça fait mal.
Ça,
pardonnez-moi.
Elle ne dit pas, elle ne dit pas ça.
Ah, je pensais, pardonnez-moi, je me suis encore emporté, Nangui. Tout comme vous d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, quand juste avant l'émission, vous avez demandé à GNB de vous faire voir la bande-annonce du dernier film de Besson, et qu'il vous a répondu, mais oh mon maître, il ne s'agit pas de Luc, mais de Philippe Besson, pas un cinéaste, un écrivain. Un écrivain? Mais tu sais bien que j'ai horreur de lire, surtout les romans. Bon, corne un peu le bouquin, glisse dedans 4 ou 5 post-it pour faire croire que je l'ai lu, lis-moi la 4e de couve et fais entrer le Besson. Voilà, cher Philippe Besson, comment
fais
se prépare.
Entrer le Besson, c'est très vulgaire.
La
ça.
Bande originale, mais c'est comme ça que vous m'avez dit. Comme se prépare la bande originale, dans la falsification
oui.
et l'escroquerie intellectuelle,
oui.
le mépris de la littérature
Merci.
Et la confusion
Merci.
Des Bessons.
Merci.
Bonne émission
Merci.
Quand même.
Merci.
Allez, allez.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Philippe Besson, d'ailleurs, vous avez dans cette faculté à écrire des romans à une rapidité. D'ailleurs, est-ce que ça s'écrit dans un jet, dans un instant comme ça, ou alors vous travaillez, vous revenez plusieurs fois sur ce que vous écrivez?
Non, il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit facile, il faut que ça coule. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai l'idée du livre, ça s'impose, c'est comme une évidence. Je vois exactement ce que je vais écrire, je connais le déploiement, je connais même la fin, et donc je peux me lancer dans l'écriture. Et quand je me lance, il faut que j'y revienne chaque jour. Ça devient presque une dépendance à l'écriture, ça devient une obsession. Je ne pense qu'à ça. Ma vie sociale est mise entre parenthèses.
Et pourquoi cette mise en abîme dans le livre, par moment, je crois 2-3 fois,
ouais.
vous regardez l'auteur, vous regardez le romancier en disant, ça je ne sais pas l'écrire,
ouais.
je ne sais pas le décrire, je n'ai pas ce don-là, ce
ouais.
talent-là. Ceci étant, vous dites ne pas l'avoir, et tout de suite après, vous le décrivez quand même à votre manière. Et
oui, mais parce que de temps en temps, on est dans une frustration de ne pas trouver le mot juste, de ne pas savoir
ouais.
exactement dire les choses,
exprimer,
raconter les
ouais.
choses telles qu'elles se sont réellement passées. Et par exemple, je dis ça notamment à propos d'un regard de Paul, à un moment, je me souviens de ce regard. Au moment où je vous parle, je vois ce regard, je sais comment il était. Et je ne sais pas l'écrire, je ne sais pas décrire précisément.
Y mettre des mots, ça serait le réduire dans un cadre.
Oui, mais on aimerait que... pouvoir mettre les mots sans que le cadre soit réduit, justement, ouais. et que chacun comprenne ce qui se passait, de la douleur et du désir mélangé dans ce regard-là.
C'est ce qui fait la beauté de la littérature, justement, oui. C'est que certains mots font penser, chacun va les interpréter à sa manière.
Moi, ce sur quoi je compte, c'est ça, c'est qu'au fond, je crois au pouvoir d'évocation des mots, et je crois que dès qu'on raconte une histoire intime, elle peut avoir une chance d'être universelle, parce qu'elle renvoie les gens à leur propre intimité, à ce qu'ils ont connu, et certes, le lecteur ne verra pas le regard de Paul à ce moment-là, mais il verra un regard qu'un jour on lui a renvoyé et dans lequel il a reconnu du désir et de la douleur mélangés.
Un peu plus de précision ne vous ferait pas de tort. Quelquefois,
Daniel, je compte sur vous.
Et la figure de l'auteur, elle est aussi convoquée puisque vous faites référence à des livres que vous avez écrits précédemment, notamment l'un d'entre eux où vous reconnaissez que finalement, vous reconnaissez en même temps, c'est pas
sur,
un crime.
Sur
puisque,
son frère, tu veux dire?
Oui, parce que ces romans, c'est comme ça que sont estampillés vos livres, ce sont des romans, en tout cas. Vous nous permettez d'avoir accès à d'autres éléments, quitte à relire finalement ce premier livre.
Quitte à dire qu'il a menti.
Il a menti, oui, bien sûr.
Mentir, oui et non, parce que finalement, vous ne nous aviez pas promis la vérité.
Absolument, j'avais expliqué que c'était un roman.
C'est pas un mensonge.
Donc, c'est vrai qu'avec ce livre-là, j'essaie de montrer l'envers du décor. C'est-à-dire, je dis, pendant des années, j'ai écrit des romans, j'ai fait de la fiction, j'ai fait un travail d'imagination. Mais évidemment, dans ce travail d'imagination, j'empruntais à ma vie réelle, j'empruntais aux choses que j'ai connues, que j'ai traversées, aux sentiments que j'ai éprouvés. Et je dissimulais ça dans un ensemble. Et j'avançais masqué, d'une certaine manière. Et donc, dans Son frère, je raconte l'histoire d'un type qui tombe malade. Mais ce type-là qui tombe malade, ce n'est pas moi. Je dis que c'est mon frère et moi, je suis le bien portant. Parce que l'avantage des romans,
et il meurt. Et vous tuez votre frère alors que vous précisez que tout va bien.
Tout va bien,
et vous l'embrassez, voilà, il est en pleine forme.
Il va très bien, je l'embrasse parce qu'il nous écoute. Donc ça veut dire que la fiction, elle vous venge du réel d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous donnez un rôle qui n'a pas été celui que vous avez eu dans la vraie vie. Dans Le Garçon d'Italie, par exemple, je raconte aussi l'histoire d'un trio amoureux, d'un homme pris entre un homme et une femme. Et je suis donc l'amant dans Le Garçon d'Italie.
Encore.
Et évidemment, Le Garçon d'Italie, je me suis donné le rôle d'un prostitué flamboyant, d'une sensualité magnifique à la gare de Florence. Parce que la fiction vous venge du réel. Ça n'est pas ce que je suis dans la vraie vie.
Mais est-ce que la fiction soigne?
Alors, je vais y venir. Pardon. Mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à un moment où je me sens enfin peut-être capable de dire la vérité, de montrer l'envers du décor et dire, je passe un contrat avec le lecteur de vous dire, voilà, je vous ai raconté une histoire, maintenant je vous raconte ce qu'est la vérité dans cette histoire-là.
C'est malin, ça fait deux fois plus d'histoires, finalement.
Non,
c'est
pire, et pourquoi maintenant vous croirez?
Oui.
Là, il faudrait que je sois particulièrement pervers pour que ça soit. Mais ça serait drôle.
Ça pourrait être une création.
Mais je vous en sens capable.
Et quel est le déclic? Quel est le déclic? Qu'est-ce qui a fait que vous vous sentiez aujourd'hui capable de passer ce pacte avec le lecteur et de dire que c'est vous qui avez été malade?
Alors, en fait, je pense que tout tient avec ce qui s'est passé avec Arrête avec les mensonges. Arrête avec les mensonges était mes premiers pas dans l'autofiction, dans le récit de soi, dans le fait de raconter sa vérité intime, de dialoguer avec ses propres disparus. Et Arrête avec tes mensonges, c'est un livre que je n'ai pas décidé. C'est-à-dire qu'il s'est imposé à moi. On se souvient parce que j'apprends une nouvelle et cette nouvelle déclenche l'écriture du livre. Et à partir du moment où j'ai écrit Arrête avec tes mensonges, j'ai eu le sentiment que quelque chose s'était ouvert, que des possibles s'étaient ouverts et que peut-être aujourd'hui il était temps de dire un certain nombre de choses. Et puis il y a cette phrase que je mets en exergue du livre, cette phrase d'Annie Ernaux qui est sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. Et à un moment dans notre vie, on arrive à un âge où tout d'un coup on se dit la jeunesse est définitivement perdue. Elle est très lointaine et si je veux en conserver une trace, il faudrait que je l'écrive, sinon tout ça sera perdu, fini, définitivement. Et donc je m'attache à raconter cette jeunesse-là pour que, comme la photo, elle demeure.
Ce qui est fort en tout cas, c'est que évidemment, on est observateur privilégié en lisant tout ce que vous racontez sur votre vie, mais également on se pose plein de questions sur sa propre jeunesse, sur ses propres amours, quelle que soit la forme qu'elle prenait, en tout cas, ses amours, et aussi de se poser des questions sur sa place, sur la fragilité de la vie, et sur la maladie dont on va parler tout à l'heure aussi avec Jean-Christophe Minot, qui est médecin, chercheur et philosophe, et justement comment vivre après avoir eu l'information de la part des médecins que l'on est condamné, comment redémarrer la vie, ce qui était votre cas, et c'est la deuxième partie, entre guillemets, de ce roman, même si l'histoire de d'amour ou cette liaison avec Paul d'Harry Grant se poursuit pendant cette convalescence. Mais d'abord, voici l'humeur d'Agnès Hurst.
Bonjour. Ce week-end, vous le savez, Michel Legrand est mort, réveillant en chacun de nous la petite fille endormie, rappelant ainsi à Daniel qu'un cœur battait sous ce cynisme de façade. Et comme pour tout le monde, bien sûr, à mes yeux, les musiques de Michel Legrand sont indissociables des films de Jacques Demy. Et non, je ne vous ferai pas l'offense d'un jeu de mots sur leur nom de famille, le deuil, la dignité et mon contrat ici m'en empêchent, mais Legrand et Demy, quel bel père quand même. Donc ce matin, j'aimerais dire merci. Mais merci qui ? Merci Jacques et Michel. Rarement.
Non. Si. Mais non.
Ça tombait super bien. Rarement on a vu collaboration plus réussie que ces deux-là, à part peut-être Bernard et Bianca, Big Flo et Oli et Marlène Schiappa et Cyril Hanouna. Parce que Jacques et Michel arrivaient toujours à mélanger dans mon esprit d'enfant des émotions apparemment contradictoires. C'était mélancolique sous des chansons légères. C'était le drame sous des couleurs pastel. Et moi, je trouve ça très beau d'aborder avec pudeur et humour les choses qui font pleurer, ou avec solennité les choses futiles. Je trouve ça très beau. Quand j'étais petite, le week-end, j'allais souvent chez... Oui, tout à fait, oui. Quand j'étais petite, j'allais le week-end chez ma tante Françoise, et je l'adorais parce qu'elle était un peu folle, pas comme les adultes. Et chez elle, je regardais en boucle Les Demoiselles de Rochefort et Loft Story.
Le Loft. En alternance.
Et je crois que cette dichotomie explique l'adulte que je suis devenue. Mi Arte, mi Énergie 12. Ah, oui. Mi Catherine Deneuve, mi Stevie. Mi Joyeuse Féerie, mi Sexe dans le Jacuzzi. Mi Peau d'âne, mi Peau à tendance acnéique. Et ça se voit même dans mon style vestimentaire. Ce pull, par exemple, ce matin, on peut dire qu'il est couleur de la pleine lune, écarlate, comme une nuit sans sommeil, bercée par les turpitudes d'un lendemain, du jour présent, de l'existence. Ou bien, on peut dire qu'il est rouge, comme une tomate. Voilà. Alors maintenant que j'en ai fini avec ma petite oraison funèbre, j'aimerais vous parler de mes rêves. Parce que moi aussi, oui, grâce à Jacques et Michel, j'ai des rêves dans la vie. Par exemple, je rêve d'un porno meilleur. Je rêve d'un porno qui me comprenne. Je rêve d'un porno à mi-chemin entre les parapluies de Cherbourg et le Loft. Je rêve d'un porno avec moins de pipes de 18 minutes, de gens imberbes, d'œil vide et de broching babilissé. Parce que ça n'est pas la vraie vie. Nous ne sommes pas dans Bernard et Bianca. Je rêve d'un porno.
Il y en a dans Bernard et Bianca.
Non, non, non.
Je rêve d'un porno où Cuny rime avec magie et où les vidéos se terminent sur un orgasme féminin et non pas sur, au hasard, une énième pipe. Je rêve d'un porno où la catégorie hétéro serait enfin aussi bandante que la catégorie lesbienne. Et je le dis avec regret, je ne me reconnais pas dans la catégorie pour les femmes, parce que les pétales de rose, ça me donne de l'eczéma, et que si je voulais un massage ou de la tendresse, j'irais chez l'ostéo, pas sur internet. Je rêve d'un porno mis en musique par Michel et filmé par Jacques, avec Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, Anouk Aimée et Faye Dunaway qui baiseraient sauvagement Steve McQueen sur les moulins de mon cœur, et tout ça pendant la kermesse de Rochefort en noir et blanc. Je rêve d'un porno qui m'aime pour celle que je suis. Mi Arte, mi Énergie 12. Et je dirais qui ? Je dirais merci, Jacques et Michel. Bonne semaine.
Merci.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Oui, et puis justement, pour rebondir, oui, Jacques Demy. Mais non, Jacques Demy qui fait partie d'un très très beau spectacle, Les Idoles, à l'Odéon, mise en scène par Christophe Honoré avec Marina Foïs. Et donc, on convoque toutes ces figures-là.
Hervé Guibert,
forcément, Cyril Collard.
Coltès.
Et Ange Danet. Et pour ceux qui ne savaient pas, voilà, quelle était la vie de Demy aussi. C'est vrai que Demy, on l'associe à Agnès Varda. Ouais. Mais on sait aussi que il avait le sida et qu'il en est mort.
Absolument.
On l'a su 18 ans plus tard, je crois, mais voilà, ça fait partie de ces idoles homo.
Oui, absolument.
La musique est très présente, l'actualité aussi, dans votre livre, de temps en temps, comme ça, il y a des informations, comme l'affaire de l'attentat de Lockerbie, ou avec cet avion qui explose malheureusement en plein vol, et qu'il y a des connexions faites avec Kadhafi,
absolument.
Avec toute cette actualité. D'ailleurs, qui vous touchait plus ou moins en fonction de ce que vous étiez en train de vivre. C'est-à-dire que oui, on en parle dans les journaux, oui, ça passe à la télé, mais...
On s'en fout
parce que j'ai rendez-vous à 17h au café, parce que je vais le voir et parce que je l'aime.
En fait, c'est très étrange parce que quand on a 20 ans, c'est un peu l'éveil de notre conscience politique et c'est la compréhension qu'il y a un monde extérieur, qu'il y a un dehors et qu'on est poreux à ce dehors-là. Et donc, on écoute l'actualité, on regarde la télévision, on lit les journaux, donc on commence à comprendre qu'il se passe des trucs autour de nous. Donc, on entend parler de cet attentat à Lockerbie, on a bien vu le char sur la place Tiananmen et le jeune homme qui arrête le char. Tout ça, c'est des choses qui nous ont impressionnés.
Sauf que Vous l'avez mis dans le mauvais sens.
Absolument,
si je peux
me
permettre. Oui. Vous parlez de la finale de Roland Garros avec Lendl. Enfin non, c'était pas la
Chang Lendl.
Voilà. Ouais. Et vous dites plus tard, il y aura Tiananmen.
Non, c'est pas ça. Non. Je dis plus tard, j'ai vu l'image.
Oui,
voilà, j'ai vu l'image plus tard. J'ai pas vu l'image sur le moment, moi, en fait. C'est ça. Non, je l'ai pas vu sur le moment.
D'accord.
Je l'ai vu après, en fait. Voilà.
Okay.
Et ce qui est frappant, c'est que donc ces événements-là, on les voit, on sait que ça arrive. Mais comme on est bêtement amoureux, comme on a 20 ans, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire, ça roule sur nous comme de l'eau sur les ailes d'un canard. C'est-à-dire que on s'en fiche un peu. C'est-à-dire qu'on est, on n'est pas rattrapé par la violence et par les soubresauts du monde. On sait qu'ils sont là, mais on y est un peu indifférent. Et pour autant, l'époque est violente, déjà.
Parmi toutes les musiques, en effet, vous évoquez... Eddie Grant ou Terence Rand D'Arby.
Sublime.
Mais aussi...
Quelle misère.
C'est génial.
Mais non, alors déjà un peu de respect pour eux, déjà les pauvres,
ouais.
Écoute.
Trop tôt disparu, hein.
Mais on les salue, tout va bien pour eux. Et puis...
Ah voilà.
Sublime Jean-Jacques Goldman.
Sublime la chanson et sublime Jean-Jacques Goldman. Ouais.
Et comme par hasard, au moment où vous écrivez le roman, vous recevez une lettre de Jean-Jacques Goldman.
Ah ouais. Ça c'est un truc de fou, c'est-à-dire que parce que j'évoquais Jean-Jacques Goldman dans Arrête avec tes mensonges, parce que j'étais absolument et intégralement fan de Goldman, voilà, et j'avais des posters dans ma chambre et tout. D'ailleurs Thomas Andrieux, quand il arrive dans ma chambre la première fois et qu'il voit les posters de Goldman, lui qui préfère téléphone est un peu interdit. Bon, et j'assume ce goût-là, et j'avais écrit à l'époque évidemment à Jean-Jacques Goldman avec l'espoir qu'il me réponde, et il m'a évidemment jamais répondu. Bon, il avait sans doute beaucoup mieux à faire, et 30 ans plus tard, Goldman lit Arrête avec tes mensonges. Il voit qu'il est dedans, enfin ça c'est pas ça qui lui importait.
Ça doit pas être le premier livre si je peux me permettre
de le citer. Et il m'envoie une lettre à ce moment-là extrêmement belle, mais vraiment magnifique,
comme
pour
quoi,
me dire ce qu'il a,
été touché,
ce qu'il a ressenti en lisant le livre, etc. Donc ça m'a voilà. Lettre à laquelle j'ai répondu, il m'a réécrit après, enfin, c'était vraiment très touchant. Et donc j'étais évidemment émerveillé d'avoir cette correspondance avec lui, et en même temps je me disais, c'est 30 ans trop tard, c'est-à-dire c'est, si cette lettre était arrivée au jeune homme de 18 ans, ça aurait été une exaltation totale, un bonheur complet, et 30 ans après, je suis très heureux évidemment, mais la texture du bonheur a changé. Donc j'ai de la gratitude, de la reconnaissance, ça me fait plaisir, je suis très heureux, parce que mon admiration en plus pour lui est intacte.
Vous savez, où a grandi Jean-Jacques Goldman et...
À Montrouge.
Voilà, où a été imprimé votre livre.
Très bien,
c'est vrai.
C'est fait exprès.
C'est écrit à la fin. Livre imprimé à Montrouge, je me suis dit, Simon, il y a du Goldman partout dans ce livre. Blague à part, on va écouter la musique que vous écoutiez aussi en 79. Manu Reva, Alain Chamfort en 79, il a à peine une dizaine d'années. Il a à ce moment-là.
Oui, c'est ça, vous avez 12 ans,
12
et
ans.
C'est un déménagement que connaît la famille.
Oui, absolument, parce que j'ai grandi moi dans une école, dans le logement qui est au-dessus de l'école du village, à Lamérac, qui est un village de 160 habitants dans le sud de la Charente. Et on déménage pour la grande ville, parce que je vais à Barbezieux, 4500 habitants, autant dire Los Angeles, enfin bon. Et donc c'est, voilà, je déménage là et c'est un déchirement, parce que c'est le moment exact où l'enfance se termine. Mais vraiment, on est en pleurs, je me souviens avec mon frère, ma mère, bon. Et c'est un déchirement. Je me souviens que d'un chagrin immense de quitter ça, parce que je pense que j'ai la conscience de quitter le territoire de l'enfance.
Et parallèlement, vous découvrez aussi le cinéma, c'est-à-dire que c'est l'avantage de Barbezieux, c'est qu'il y a un cinéma
qui s'appelle Le Club,
et que vous pouvez aller fréquenter plusieurs fois, je crois, au moins 3 fois par semaine tout seul.
Absolument,
c'était devenu une sorte
absolument.
De rituel.
Parce que moi, on n'avait pas le droit de regarder la télé quand on était enfant avec mes parents, voilà. Donc moi, j'ai pas vu la télé pendant jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans.
Ça ouvre d'autres cultures.
Absolument. Ouais. Donc je lisais des livres, je faisais autre chose, j'allais dans les champs, dans les vignobles, bon. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, dans cette ville où on déménage, Barbezieux, il y a un cinéma. Et donc, chaque semaine, il y a 3 films qui sont diffusés. Et je vais voir les 3. Alors, j'ai vu des films qui ne méritaient pas forcément
bien
d'être
sûr.
Vus. Mais j'avais besoin de
vous
ça.
Vous avez forgé votre expérience de spectateur.
Oui, et puis ça nourrit l'imagination. Et puis, c'est l'idée que tout d'un coup, il y a des gens sur une toile qui racontent une histoire et vous y croyez. Donc, c'est un truc de fou.
1999.
Je chante un baiser. Je chante un baiser osé. Sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée, je chante un baiser. Marchant dans
et
la
là, Philippe, on va prendre la date du 4 septembre 1999.
Ah oui.
le jour où
j'écris la première ligne du premier livre.
Vous devenez en quelque
sorte écrivain. Genre, vous avez noté la date.
Ah mais je sais, absolument. Je me souviens du moment, de l'endroit, du café, à Montréal, place Jacques-Cartier. J'écris, j'ai 16 ans, je suis né avec le siècle. C'est la première phrase dans L'absence des hommes que je publierai un an plus tard. Mais vraiment, c'est là aussi, c'est une révélation. C'est ça tombe dessus comme la foudre. C'est au moment où j'écris la première phrase, je sais que je me parais cinglé quand je raconte ça, mais je vais pas raconter autrement parce que c'est comme ça.
À aucun moment vous sentez un imposteur, un sentiment que certaines personnes ont, et moi le premier, en se disant pourquoi moi, pourquoi là
Non, en fait.
De quel droit?
Non, justement, je sens l'exact contraire. C'est-à-dire, je me dis, enfin, je suis à ma place pour la première fois. C'est-à-dire, tout ce que j'ai fait jusque-là, je ne le renie pas. La vie que j'ai vécue jusque-là.
Ouais, 16 ans,
Les métiers que j'ai. Parce que là, à 99, j'ai déjà 32 ans quand j'écris le premier élément. Donc, tout ce que j'ai vécu jusqu'à 32 ans, j'ai pas de souci avec ça. La vie que j'ai menée me va, ça. Mais j'ai fait quelque chose. Et là, tout d'un coup, quand j'écris le livre, j'ai l'impression d'être. J'ai l'impression que c'est identitaire. C'est au plus près de ce que je suis. J'ai l'impression que je me rencontre. Mmh. Et donc, l'écriture, quand ça me tombe dessus, je me dis, je veux plus rien faire d'autre dans ma vie que ça. Écrire des livres maintenant. Donc, non seulement je me sens pas un imposteur, mais je me sens complètement à ma place. Après, la suite aurait pu me donner tort et on aurait pu me dire que vous écrivez très mal, vos livres n'intéressent personne, et ça aurait pu arriver, évidemment. Mais fondamentalement, moi, je me pose pas cette question. Je suis dans une sorte de révélation presque mystique. Ouais.
Et qu'est-ce qui a séduit, d'après vous? Parce que vous avez envoyé votre manuscrit parce que vous ne connaissiez personne dans le monde de l'édition. Non. Donc, je crois, 7-8 maisons.
Ouais.
L'un d'entre eux vous a répondu particulièrement intéressé. D'après vous, qu'est-ce qui a séduit? C'était une histoire, je rappelle, c'était pendant la Première Guerre mondiale où vous mettiez en scène Marcel Proust.
Oui, absolument.
Et c'est un récit sur le désir et l'amour.
Je pense qu'en fait, peut-être le fait que ça ne soit pas un texte autobiographique, mais que je sois allé puiser dans l'histoire, parce que c'était effectivement Proust en personnage central et la Première Guerre mondiale en décor.
Ouais.
Tout ça fait que l'éditeur a dû se dire, celui-là, il est quand même étrange d'écrire à 30 ans des livres qui se passent en 1916 avec des personnages ayant réellement existé et qu'il n'ait pas l'idée de se raconter lui. Donc j'imagine que c'est ça qui a dû séduire. Oui.
Vous avez dit l'auditeur et pas le lecteur, ça tombe bien parce qu'on va arriver en 2012. Lana Del Rey qui a refusé d'articuler, mais c'est sublime.
Oh
non, mais j'adore.
C'est génial.
C'est tellement beau.
C'est bon ce commentaire.
C'est tellement beau.
Mais c'est vrai que ça fait un peu AVC quand même. Hein.
Oh
Ah, si, elle prononce rien.
Et on vous retrouve, Philippe,
à la radio, justement. C'est pour ça
en 2012 à la radio, dans On refait le monde, sur RTL.
Oui.
Vous participez régulièrement à cette émission de débat et d'actualité.
Avec Marco?
Oui, absolument.
Ouais, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de participer
j'ai
auteur et qu'on pourrait se dire, j'ai une figure publique, il faut pas que je me fâche avec mes lecteurs potentiellement en prenant position.
Non, j'ai hésité à le faire, mais pas pour cette raison-là. Ça rentrait pas en ligne de compte. Mais l'hésitation que j'avais, c'était de me dire d'où je parle. C'est plutôt ça, c'est de dire, je vais à la radio pour donner mon avis, on va me dire, mais enfin, on s'en fiche un peu de son avis.
Ouais.
Mon avis n'a pas plus d'importance que l'avis de n'importe qui d'autre. Enfin, il est équivalent à l'avis de tous les autres.
Non, c'est un avis, c'est ça.
Non, parce que je voulais pas donc me présenter comme un expert de quoi que ce soit. Je ne suis expert en rien. Bon, donc j'ai beaucoup hésité. Puis finalement, j'y suis allé en me disant, après tout, j'ai un regard sur l'actualité. Je vis dans le monde réel. Donc, parce que je lutte contre cette espèce de figure éthérée de l'artiste qui vivrait en dehors de toute contingence, qui ne saurait même pas que quoi que ce soit existe autour de lui.
Qui connaît pas le prix de la baguette ni du ticket de métro.
Ça m'agace parce que c'est faux. Mmh. Et donc j'avais envie de dire, vous savez, nous aussi on vit dans le monde réel et on peut avoir un regard sur ce monde réel. C'est pour ça que je suis allé le faire.
On va évoquer avec Jean-Christophe Minot l'autre partie donc de votre livre. Merci Jean-Christophe de venir à ce micro. Je le disais tout à l'heure, vous êtes médecin, chercheur et philosophe, auteur de nombreux ouvrages. Vous avez signé « Vivre après un cancer, favoriser le soin de soi » en 2016 et en 2018 « Soin du corps, soin de soi » aux éditions PUF, presse universitaire. De France ou française,
je sais
plus.
De France.
Il est évident que lorsqu'on frôle la mort, ça change la vie, mais ça la change en bien ou en mal?
Alors en fait, je dirais que il y a autant finalement de manières de vivre une maladie grave et un événement aussi déstabilisant qu'il y a de malade en fait. Donc on peut pas dire ça la change en bien ou ça la change en mal. Pour certaines personnes, ça a pu la changer en bien. Pour d'autres personnes, ça a été un traumatisme. Donc, c'est difficile de faire des généralités.
Mais il n'y a pas une redécouverte, il n'y a pas ce moment magique. Je me souviens de Philippe Labro qui me disait que pour lui, chaque brin d'herbe reprenait une importance et une dimension magique et formidable.
Alors néanmoins, il y a des points communs.
Sa maladie, voilà.
Il y a la manière dont on l'a vécu, il y a la manière dont on s'en souvient, et il y a le fait finalement que, d'une certaine manière, rien ne sera comme avant. Et ça, c'est ce que disent les gens qui ont traversé une épreuve comme une maladie grave. C'est-à-dire, on peut plus être comme avant. Et notamment, il y a cette dimension-là qui est très importante, qui est pas tant le fait de vouloir jouir de la vie que le fait de pouvoir, en fait, profiter tout simplement du présent. Et de savoir diem. Quelle est l'importance, ouais, tout ça. Simplement, ouais. De vivre au présent.
De chaque seconde. Voilà. Pendant une maladie, on a également le regard de ses proches, de la famille, de ses amis. On peut avoir le sentiment d'être soutenu ou au contraire abandonné. Quand on dit profiter de chaque seconde, c'est soit avec soi et soit avec la vie et la nature et la planète, mais avec son entourage. Est-ce que là aussi, ça peut changer des choses?
Alors, avec son entourage, effectivement, c'est un moment qui est absolument primordial. Et d'une certaine manière, ça rend visible des liens qui étaient quotidiens. Donc, quand je parlais effectivement de l'importance du présent, c'est la même chose. On vit tous au présent. Mais on n'en a peut-être pas cette conscience, justement-là. Et même chose, en fait, dans les relations qu'on peut avoir avec ses proches. La quasi-totalité du temps, d'ailleurs, justement, ça renforce les liens avec les proches. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi une épreuve. Et parfois, ça peut détruire certains.
Il y a des gens qui sont très maladroits vis-à-vis de la maladie. Voilà. C'est aussi le cas dans le roman de Philippe Besson. C'est-à-dire des gens qui n'aiment pas traîner dans les hôpitaux, qui n'aiment pas cette ambiance-là, qui sont maladroits, qui n'osent pas dire comment ça va.
Ça les confronte à leur rapport à la mort à eux aussi. C'est-à-dire que, voilà.
Ça, c'est évident, effectivement, que ça dépend des personnes et de la façon dont chacun, finalement, à nouveau, dans les proches, réagit à la maladie, ce qui est très personnel. Néanmoins, ce qui est spécifique, c'est que quand même être malade et gravement malade, c'est être à part, en fait. Et c'est vivre quelque chose qui est totalement à part. Et de ce fait-là, effectivement, les relations avec les proches changent aussi.
À part, ça nous renvoie simplement à la fragilité de la vie.
Oui, mais à nouveau, c'est des choses dont on n'a pas conscience.
Cette fragilité-là, oui, mais on peut l'avoir aussi si on perd un ami ou un proche, un membre
tout
de
à
sa
fait.
Famille. C'est pas forcément soi, on n'est pas le nombril du monde.
Non, tout à fait, bien évidemment. C'est pas forcément soi. Mais le fait quand même, je dirais, d'être marqué dans sa chair par cette fragilité-là, et pas seulement se savoir théoriquement mortel, mais vivre le fait que l'on va peut-être mourir, et en l'occurrence là dans le livre, il le dit à un moment, je vais mourir.
Ouais, il l'annonce même à ses proches.
Exactement. Ouais. C'est pas du tout la même chose. C'est pas intellectuel en fait. C'est quelque chose que l'on a au plus profond de soi. Et c'est ça qui fait la différence.
Quand vous parlez de maladie, et qu'il y a une guérison dans les bons cas de figure, est-ce qu'on parvient aussi à quitter cet état d'individu qui est sur la sellette?
Survivant,
tu veux dire ? Ouais, dedans, de guérir aussi, de ce rapport à la guérison. C'est tout d'un coup se considérer non plus comme un ancien malade, mais comme quelqu'un qui va bien et qui... Et donc c'est derrière soi, je pense à des cas de cancer où on a toujours la crainte
que ça revienne
et qu'une fois qu'on est guéri, on reste un peu dans ce statut de potentiel malade.
Ce qui est sûr, c'est que, on va dire, il y a une période très particulière, une période un peu floue, justement, après les traitements, après la maladie grave. Et dans cette période-là, justement, on se sent sans doute plus fragile. Et puis après, le temps fait que très souvent, justement, heureusement, on se réapproprie ce qui s'est passé, les choses s'estompent. Néanmoins, comme vous le soulignez, dans le cas du cancer, il peut toujours y avoir cette idée que ça peut revenir. Surtout quand on est en surveillance et qu'on a des examens, donc les choses peuvent revenir. Néanmoins, je dirais qu'avec le temps, en fait, justement, ça s'apaise et on retrouve le monde normal, entre guillemets.
Est-ce qu'il y a un problème culturel aussi dans notre société occidentale? Notre rapport à la mort n'est pas exactement le même que dans d'autres régions du globe ou avec d'autres croyances. Et ça nous apprend aussi à relativiser ce rapport-là et à le maîtriser un peu.
À le maîtriser ou à le démaîtriser, justement.
Peut-être, oui.
Puisqu'en fait, on est dans une société qui est autour de la maîtrise. Notamment autour de la maladie et de la mort.
On croit tout maîtriser, or la seule chose que l'on ne maîtrise pas, c'est la mort.
Oui.
Et on l'appréhende plus que dans certaines religions, croyances, où on en fait une fête, on en fait comme un passage de plus vers autre chose.
Oui, mais justement, en fait, moi je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut rencontrer quand on est gravement malade, c'est cette déprise. Et c'est ce qui est dit d'ailleurs aussi dans le livre. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le livre, ça raconte une histoire d'amour et une histoire de maladie. Et en fait, le point commun entre les deux, quand même, c'est la déprise.
Philippe, Là, il faut que vous interveniez.
Oui, mais c'est à un moment le lâcher prise. C'est-à-dire, tout d'un coup, ça ne dépend plus de vous. C'est-à-dire que vous êtes amoureux et ça ne dépend pas de vous. Vous êtes dans cette dépendance et vous êtes malade et vous dépendez des sachants, des savants et vous dépendez de votre corps qui dysfonctionne et à propos duquel vous pouvez rien faire.
Mais c'est vrai aussi que cette maladie intervient comme une sorte de révélateur à ce moment-là dans votre vie, à tous les niveaux.
À tous les niveaux, oui. Mais on se pose la question d'ailleurs du corps somatique en se disant, est-ce que le corps réagit effectivement à autre chose? Bon, est-ce que je tombe malade juste après être tombé amoureux, donc c'est quand même toujours une succession de chutes. Et c'est vrai que ce que vous disiez est très juste. C'est-à-dire, à la fois, on se découvre mortel, ce qui est une chose terrible, surtout à 20 ans, on n'a pas du tout envie de se découvrir mortel. On pense qu'on a, on a la vie devant soi et qu'il ne nous arrivera rien. Et tout d'un coup, on vous dit, ben, mon vieux, ça peut s'arrêter demain matin, vous allez peut-être mourir, et en tout cas, vous avez une épée de Damoclès au-dessus de votre tête et il faudra que vous vous fassiez avec, ce qui est un peu compliqué, voilà. Vous voyez aussi dans le regard de vos proches, c'est-à-dire que moi, je me souviens de ma mère face à moi et qui se dit, mon fils va mourir, donc c'est juste insoutenable pour elle. Et vous pouvez rien faire, à part juste mimer l'insouciance et faire croire que tout va aller bien et que ça va se régler, tout ça, et qu'il faut pas s'inquiéter, mais que, pour autant, vous n'avez aucune possibilité de le faire. Et puis à un moment, oui, cette espèce de lâcher prise où vous dites, bon ben c'est fini. C'est fini, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir, le tunnel est trop long, visiblement tout échoue, visiblement tous les traitements qu'on tente ne mènent à rien, visiblement je suis un malade rétif à tous ces traitements-là, donc on arrête. Et bizarrement, ce moment-là, je me souviens, moi, chez moi, je le vis comme, je lâche prise, c'est fini, ça va s'arrêter.
Alors, justement, Jean-Christophe Minot, est-ce que ce lâcher-prise-là n'est pas un danger où on laisse la maladie l'emporter sur sa force de caractère, et je repense au concert, et on l'a déjà tous entendu.
Le
combat est extrêmement important, et ceux qui disent « je vais y arriver, je vais me battre contre le cancer », gagnent plus souvent que ceux qui abandonnent en se disant...
Oui, ça je suis d'accord, mais en même temps, il faut accepter d'être malade. Et c'est ce que vient de dire, en fait, Monsieur Besson.
Non, mais accepter d'être malade, c'est une chose. Se dire, je vais me battre et je vais gagner est un plus par rapport à ceux
qui... Ah oui, tout à fait.
Oui, parce que là, ils jettent l'éponge à ce moment-là du roman.
Et se battre, c'est une manière d'accepter.
Oui, mais en même temps, c'est après un long coma que ça se passe.
Oui. C'est vrai. Jean-Christophe Minot, le soin du corps, soin de soi, ça passe, j'imagine, par la nourriture, par l'hygiène de vie, par le sport ou la marche.
Ça passe beaucoup, effectivement, on va dire, par toutes les activités qui sont possibles et qui font du bien au corps, en fait, dont effectivement la marche, l'activité physique, mais aussi le fait de pouvoir bien manger. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important, je dirais, aussi dans l'après. Et dans l'après-traitement.
Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Christophe, d'être venu à notre micro. Jean-Christophe Minot. Tanguy Pastureau, l'Eurovision, c'est formidable et vous aimez ça.
Oui, parce que c'est plus quiche qu'une boule à neige dans laquelle il y aurait une figurine représentant Gérard Collomb. Des chanteuses mal sapées, des brailleurs poilus, des synthés atroces. Et en plus, les pays de l'Est votent entre eux pour eux-mêmes. Donc autant dire que notre petit Bill Alassani, là, il a zéro chance. Mais enfin, on l'aime quand même.
Très bien, on en parle juste après les infos. Bienvenue si vous nous rejoignez avec Léla Gadeboudou.
Bonjour.
Agnès sur Stel. Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Albert Albou.
Bonjour.
Et notre invité Philippe Besson. Philippe Besson qui signe un certain Paul Darigrand aux éditions Julliard. C'est une histoire vraie, même s'il ne s'appelle pas Paul Darigrand. Il y a donc cette première partie où vous êtes étudiant à la fac, lui aussi pas exactement dans les mêmes cours, même cycle, mais en tout cas vous vous croisez, vous vous aimez, vous êtes l'amant qui vient perturber un couple où tout est là pour qu'il réussisse, ils sont parfaits, vous admirez la compagne de Paul, et réciproquement d'ailleurs, elle a beaucoup de tendresse et d'affection pour vous. Mais de là va se construire une liaison, un mensonge qui sera révélé par la maladie. C'est qu'à ce moment-là où elle, infirmière en plus, et ça c'est pas naïf, ça c'est pas une invention de la fiction.
Non, elle était vraiment infirmière. Oui.
Va être à la fois à l'écoute du malade et à la fois la juge de la situation et va vous condamner, en tout cas de ne pas apprécier que les choses se soient faites dans le mensonge.
Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, elle déboule d'ailleurs à l'hôpital où je suis j'attends le verdict. Et elle vient d'apprendre que je suis malade parce que Paul a fini par le lui dire. Et à la fois, elle déboule d'abord comme une infirmière, c'est-à-dire avec un langage finalement assez objectif, assez technique, mm-hmm. pour dire alors ça se passe comment, etc. Oui. Et ça, à la fois, je suis décontenancé par sa présence et rassuré par le fait qu'elle me tient un discours finalement objectif, objectivé. Et puis tout d'un coup, elle ça vrille. On passe dans le personnel et je comprends que elle, sans doute, elle devine et que la fin de l'histoire d'amour est peut-être proche parce que elle va finir par l'emporter, parce que c'est quelqu'un qui a cette force d'avoir plu à Paul, de l'avoir séduit, de l'avoir conquis
de ne pas être sur la concurrence avec elle non plus.
Absolument, on n'est pas du tout sur le même registre. Évidemment, on n'apporte pas la même chose, elle et moi. Mais elle, je pense qu'elle a la conviction, et la suite lui a donné raison, qu'il l'avait choisie elle. Et qu'elle serait la compagne de sa vie entière, que le jour où il l'a choisie, elle serait ça, et que peut-être lui jouerait dans l'ombre autre chose. Il aurait des liaisons clandestines, il aurait des inclinations qu'il ne révélerait pas, mais qu'elle serait elle la compagne pour la vie. Voilà, et je comprends que je perds le match à ce moment-là. Oui.
Un certain Paul d'Arrigrand chez Julien, l'excellent nouveau roman de Philippe Besson. On en reparle, mais d'abord voici Tanguy Pastureau. Tout le monde, ou presque en tout cas, Tanguy, ne parle que de Bilal Hassani.
Oui, parce que ce jeune homme, c'est lui qui à l'Eurovision va participer pour le compte de la France. Samedi sur la 2, il est sorti vainqueur à l'issue d'un suspense à la Hitchcock. En tout cas, depuis que ce dernier est mort, parce que clairement, c'était le favori. Les gens ont voté en masse. Il y a 16 fois plus d'électeurs pour ce type de scrutin que pour les européennes. Et Garou, après s'être passé la glotte à la râpe à gruyère, a crié son prénom, Bilal, avant de cracher 7 litres de glaire qui ont été mises de côté pour les enfants pauvres. Le Secours Populaire leur offrira en leur faisant croire que c'est du slime. Donc en théorie, nous Français devrions hurler en chœur « Vas-y Bilal, défonce-les nous ces petites catins slovaques, tu vas les ken les Portugais !» Malheureusement, il n'y a plus de guerre en Europe, donc c'est la seule manière qu'on a de canaliser notre violence, notre racisme, tout ce qui constitue notre ADN. Bah non, au lieu de ça, le petit haut depuis samedi croule sous les tweets homophobes. Il faut dire qu'il est gay, ce qui démontre que les gens qui l'insultent ont de la suite dans les idées. Et qui portent une perruque. Mais enfin, Dick Rivers aussi. Et personne ne le pourrit sur Internet. Même les véganes lui foutent la paix avec le nombre de bottes en crotale qu'il a acheté dans sa vie. En fait, le type est tellement sympa que même s'il devient nazi, on dira oui, mais il traverse une mauvaise passe. Bref, chaque jour, Bilal Hassani reçoit des messages anti-gays. C'est-à-dire que nous, le matin, on nous dit bonjour. Ce qui déjà est affreux parce que la plupart du temps, la personne qui nous le dit ne s'est pas encore brossé les dents. Mais lui, dès 7h, lit des ignominies sur Twitter. Moi, déjà, quand j'ai la patate, j'ai pas le courage d'affronter une nouvelle journée. Et personne ne m'insulte. Au pire, un auditeur d'Inter aura repéré qu'une fois, à la suite d'un après-que, j'ai utilisé l'imparfait et m'aura envoyé du cyanure dans un bécherel. Mais enfin bon, je sais pas comment il fait lui. Le gonze a 19 ans, on est fragile à cet âge-là. Nous, on est blindés. Daniel Morin a 68 piges. Vous le traitez de suppôt de Laurent Wauquiez, au sens de fan de Wauquiez, hein, pas de celui qui va dans ses fesses. Bon, bah, il relève pas et il part fumer 4 clopes en sirotant 12 cafés. Et puis je me dis quoi, on est en 2019, le côté androgyne, ça devrait pu choquer grand monde. Un Bowie en 72, il était plus maquillé que ta grand-tante. Et même pour ceux qui seraient passés à côté, Indochine, troisième sexe, c'était il y a 30 ans, une fille au masculin, un garçon au féminin. Là, ça va, c'est popu. On n'est pas sur du Jean Genet qui gratte 30 pages pleines de mots sur les backrooms de l'époque. Et là-dessus, on n'évolue pas. Non mais moi, je le dis, même si demain, la moitié des mecs enfilent une perruque rose et une robe, ça va pas changer ma vie. Au contraire, avec juste un jean et une chemise, je sortirai de la masse niveau look. On dira de Bernard de la Villardière, à la vache, il ose le pull sur les épaules, il casse les codes établis. Enfin, l'homosexualité, ça y est, normalement, c'est digéré. Ils se marient, ils ont des gosses, on n'a pas à être frustrés, ils ont la même vie sans intérêt que les hétéros. Et puis, à tous ceux qui disent, ouais, quand même, Bilal, il représente la France. Mais vous oubliez la fin de la phrase, c'est à l'Eurovision. Si Macron déboule au G7 avec une perruque et une petite robe bleue de Brigitte, là, on pourra dire, purée, je suis troublé, j'ai envie de lui. Par contre, ce n'est pas le lieu. Mais l'Eurovision, c'est tout pourri. Des chansons atroces écrites par des manchots et glapis par les pires artistes du monde. Ça va, on peut venir en perruque.
Ouais, le problème, c'est que Bilal Hassani rassemble beaucoup de haine, formes de haine.
Ah bah il a tout. Il est arabe, donc les racistes le détestent. Il est gay, les homophobes le détestent. Là-dessus, d'autres arabes disent, c'est pas possible, chez nous, ça n'existe pas. Alors que si, simplement, les gens se cachent, comme on le fait à Monaco quand on a une carte de retrait de la banque postale. Et en plus, circonstance atténuante, Bilal en mai va chanter où ? à Tel Aviv. Donc les antisémites vont le détester, et les antisionistes, et ceux qui sont les deux, ce qui chez nous représente un paquet de gus. Mais enfin là-bas, au moins, il sera bien, parce que Tel Aviv, c'est la ville gay par excellence. Ils ont même une plage dédiée. Hein, il y a aussi une plage pour les religieux. Il faut juste pas se planter. Si vous n'avez pas mis vos lentilles et que vous fredonnez du Lady Gaga en bougeant du boule sur la plage des religieux, en vous disant « là, je vais m'intégrer à la communauté », ça va être compliqué. Donc, on a tous une raison de haïr le petit Bilal, parce qu'il vient titiller ce que chacun, on a de pas net en nous. Le problème, c'est pas lui, c'est nous. Le mec qui se fait insulter n'y peut pas grand-chose. On dit « il provoque », mais il provoque quoi ? Ok, la compassion, parce que personne ne mérite de faire l'Eurovision. Ainsi, à la place de la prison à vie, on établissait la participation à l'Eurovision comme peine maximale, il y aurait plus un crime en France. Et Christophe Andelade se retrouverait à raconter l'histoire de Porcinet qui se coince la tête dans le pot de miel de Winnie, faute de faits divers à exploiter. Mais enfin, c'est pas parce qu'un gay à la télé chante avec un peu de maquillage qu'on va tous être gays. Hein, ça marche pas comme ça. Sinon, vu comme on voit Nicolas Dupont-Aignan sur BFM, dans la même logique, là, on serait 80% de souverainistes, rêvant de payer notre baguette en francs. Nagui, vous avez vu Bilal Hassani comme nous tous. Bon, bah, vous n'avez pas dit à votre femme, désolé bébé, j'aime les mecs, je te quitte, garde mes 7 d'or, tout le reste, je prends. Bref, Bilal Hassani représente la France. Donc, si on est patriote, on se met avec lui et on crie, allez Bilal. Et si on est mélomane, on ne dit rien et on attend le 19 mai, le lendemain de la punition européenne, pour écouter de la vraie musique. On a une fenêtre de 15 jours. Ensuite, il y a les tubes pourris de l'été qui arrivent. Allez, petit, t'es joyeux, léger, tu pétilles, donc éclate-les tous avec le sourire et en levant la tête.
Merci, Tanguy Passion.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et vous avez une fenêtre de 2 jours pour voir Tanguy dans le Finistère le 8 février à Plougastel et le 9 février à Ergué-Gabéric.
Puisqu'on parle de cette Eurovision et de tous ces tweets ou de cette haine homophobe, Philippe Besson, vous avez essuyé déjà des regards et des insultes homophobes.
Oui, bien sûr. Au milieu des années 80, dans une petite ville de province, quand vous vous révélez homosexuel, c'est rare que les gens vous envoient des fleurs. Hein. En général, ils vous adressent plutôt des mots injurieux, des insultes, ils vous bousculent. Voilà, donc il y a un peu de violence physique et verbale.
Comment on peut l'expliquer ? Moi, je reprends ce qu'a dit tout à l'heure Tanguy Passion, et je repense aussi à la phrase qu'avait dite à ce micro Lilian Thuram sur les racistes ou les insultes, en disant que c'est celui qui insulte qui a un problème.
Mais oui, bien sûr. C'est ce que dit Tanguy. C'est-à-dire que le problème, c'est pas nous, c'est les autres. Le problème, c'est pas Bilal Hassani, c'est les autres, ceux qui l'insultent.
C'est ça.
Mais alors, on pouvait dire, il y a 35 ans, il y a une forme d'ignorance. C'est-à-dire que, il y avait une forme d'invisibilité des homosexuels. En tout cas, ils n'étaient pas très visibles. Donc, effectivement, quand vous voyiez arriver un homosexuel, vous étiez décontenancé. J'essaie de trouver des explications. C'est un peu compliqué, mais j'essaye. Et donc, vous étiez dérouté. Et on a comme ça une espèce de difficulté à l'égard de tout ce qu'on ne connaît pas bien. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, on a tous compris ce que c'était que l'homosexualité. On sait tout aussi ce que c'est que l'homophobie. Et donc, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui comment on peut s'acharner sur ce jeune homme ou sur n'importe quel garçon ou fille qui a 16 ans, 17 ans, comprend que son inclination le porte vers son sexe. Et là, c'est très gênant, parce qu'il faut qu'on ait en tête que c'est la raison majeure de suicide chez les adolescents.
Oui, absolument. D'où l'importance du refuge aussi qu'il faut soutenir. Absolument. Mais qu'est-ce que ça peut faire ?
Ah, mais moi, c'est pas à moi qu'il faut poser la question.
Non, mais j'aimerais comprendre.
Moi, je suis dérouté, je suis décontenancé, on a envie de dire, ça vous enlève quoi ?
C'est comme pour le mariage.
Quel problème ?
C'est comme pour le mariage, ça n'enlevait rien à personne.
Absolument à personne. Moi, c'est ça qui me frappait, c'est que sur le mariage, quand même, pour tous, vous avez des gens qui sont descendus dans la rue pour dire « nous, on a un droit et vous ne l'aurez pas ». Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la République. En général, les gens descendent dans la rue pour défendre quelque chose qu'on a prévu de leur retirer. Voilà, bon.
Mais c'est comme
là, on ne leur retirait rien du tout,
comme
à personne. L'idée, c'est qu'on donnait quelque chose en plus. Mm. Et vous vous dites, mais dans quel monde on vit et dans quelle époque on vit pour que ce soit encore jouable, cette haine ?
Est-ce que Paul Darry-Grand, dans votre roman, lui n'assume pas son homosexualité ?
Absolument. En tout cas, il ne l'assume pas publiquement. C'est-à-dire, il l'assume dans l'intimité, bien sûr, mais pas publiquement. Et je pense que ça entre en ligne de compte dans ses choix.
Enfin, il n'assume pas dans l'intimité de son couple non plus.
Oui, que bien sûr.
Sa femme dit, je me doutais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas.
Il n'est pas que homosexuel d'ailleurs.
Absolument. Mais après, je pense que ça fait partie de ça. C'est-à-dire que je pense qu'au fond, c'est quelle vie je choisis. Est-ce que je choisis finalement une vie tranquille, une vie où il ne m'arrivera rien, une vie où finalement je ne serai pas l'objet des insultes, de l'opprobre, etc. Ou est-ce que j'assume et je prends le risque d'être violenté, d'être moqué, d'être ostracisé ? C'est vrai qu'on court un risque quand on se montre différent, quand on n'est pas dans la norme, quand on n'est pas dans la majorité. C'est plus simple d'être dans la majorité.
Oui, parce que
le monde est fait pour la majorité.
Le héros ou le co-héros de votre roman, on ne sait pas trop d'ailleurs s'il se cache par rapport au regard de la société ou par rapport à l'image qu'il a de son couple et de sa vie privée. Est-ce qu'il protège sa vie privée ou est-ce qu'il se protège du regard des autres parce qu'il n'est pas homosexuel?
Je pense qu'il avait une vraie ambivalence, une vraie ambiguïté. C'est-à-dire qu'à la fois, il n'avait pas envie de courir ce risque-là, de faire courir un risque à son couple officiel, et en même temps, il savait vers quoi le portait son désir, donc il assumait aussi une part de ça. Donc lui était moi je le vois comme un funambule, Paul Larigrand. C'est quelqu'un qui marche sur un fil, et de temps en temps, le fil bouge un peu fort, mais il continue à avancer sur son fil. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, beaucoup de gens qui sont des funambules de l'existence.
Ouais, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont intimement convaincues que tout le monde, homme comme femme, tout le monde est bisexuel, mais n'assume pas cette bisexualité et où c'est l'éducation ou les croyances ou la manière dont les choses
ont été forcées. Je ne crois pas à ça. Je pense qu'effectivement, à un moment, on découvre sa sexualité. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler cette évidence, c'est d'enfoncer cette porte ouverte, qui est qu'on ne décide pas de sa sexualité, justement. C'est-à-dire que personne ne s'est réveillé un matin dans cette pièce en se disant « Tiens, ben, je vais décider d'être homo ou hétéro. » Non, on ne décide rien. Ça s'impose à nous.
Bon, ce qui a choqué quand un youtubeur a décidé de...
Oui, c'est ça. Je vais être homosexuel pendant une semaine.
Voilà, pour voir
bien sûr, chérie, fait autre chose. Bon. Et donc, non, mais enfin, les gens sont cinglés. Bon.
Et puis on ne décide pas de qui on tombe amoureux.
Voilà, absolument.
En fait,
on décide pas grand-chose.
Au-delà du choix, de l'attirance, on peut très bien se dire, vous pouvez vous dire, vous, Philippe, moi je suis homosexuel, mais demain vous allez rencontrer une femme.
Absolument.
Et tout d'un coup, ça va bouleverser votre vie.
Ça, je crois fondamentalement à ça.
En fait, vous ne devenez pas hétéro, vous êtes amoureux.
Je crois qu'on a une sexualité définie, délimitée, etc. On peut décider de la censurer, de la comprimer, de la réprimer, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, on a une sexualité. En revanche, on peut avoir des inclinations différentes. On peut effectivement aller vers des gens, on peut tomber amoureux de gens qui... insoupçonnés. D'une manière générale, d'ailleurs, on tombe souvent amoureux de gens qu'on n'avait pas imaginé aimer un jour. Donc ça, je crois à ça. Et je crois aussi que notre vie est faite de rencontres, pas seulement amoureuses. C'est-à-dire que je pense que le cours de notre existence, le cours de notre existence et notre destin au final, il est décidé par ceux qu'on croise sur le chemin.
C'est-à-dire vivre en société.
C'est-à-dire que on peut tous ici dans cette salle et ceux qui nous écoutent se dire quels sont les gens que j'ai rencontrés à un moment dans ma vie qui ont changé la trajectoire. Il y en a forcément.
Sûr,
et donc je crois à ça fondamentalement. Je crois aux rencontres.
Beaucoup de pudeur dans votre manière de décrire d'ailleurs la sexualité. Vous passez plus de temps et ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Vous passez plus de temps sur les préliminaires que sur l'acte en lui-même et vous dites d'ailleurs clairement, vous écrivez clairement.
Je vais pas vous faire un dessin.
Je fais pas un dessin.
Je vous laisse imaginer. Je vous fais pas un dessin. Je vous laisse imaginer la suite pour que après chacun s'identifie comme il le veut, comme il le souhaite. Et
bien sûr, on sait.
C'est la pudeur.
Et puis de toute façon, d'une manière générale, moi j'essaie d'être plutôt quelqu'un de la pudeur, de la délicatesse, de la retenue, de la... Voilà, je crois pas à la démonstration, je crois pas... Bon, donc tout le monde a à peu près compris et donc ça sert à rien. Et puis effectivement, je crois au pouvoir des vocations. C'est-à-dire, je pense qu'il faut envoyer un début d'image et les gens continuent l'histoire. C'est ça un livre, indépendamment de ce sujet-là. Un livre, c'est que vous commencez à dire quelque chose et les gens entendent une histoire qui est la leur. C'est quand vous racontez une histoire intime, les gens entendent leur histoire à eux. Ils entendent l'écho de leur propre intimité.
Pudeur, élégance, délicatesse, autant de mots qui ne vont pas. À Daniel Morin.
Oh, ce que c'est bon, nom de Dieu. Oui, c'est infiniment bon de recevoir un homme de la trempe de Philippe Besson, un homme de lettres, un érudit qui n'a pas peur de se livrer, de se mettre à nu en fouillant pour nous et avec nous le grenier des amours passés. Quand je pense aux miennes, à mes amours passés...
Oula.
J'ai la larme à l'œil. J'ai toujours une larme quand j'y pense, une larme de nostalgie quand je pense à certaines, une larme de soulagement quand je pense à d'autres, une larme de dégoût quand je pense à la majorité. Mes amours commencèrent très tôt. Dès la maternelle, le long chemin de harcèlement qui jalonne ma vie trouva ses marques. Sophie, une petite souillon âgée de 5 ans, avait jeté son dévolu sur moi. Faut dire qu'à l'époque, j'étais irrésistible. J'avais 4 ans et 3 mois, mais j'en paraissais facilement 4 et 10. J'étais dans ma phase romantique énigmatique. À la récréation, j'arpentais la cour de récréation, le regard perdu en fumant des clopes. Sophie me plaisait, c'est sûr, du haut de ses 5 ans. Elle avait ce magnétisme irrésistible qui mettait au défi aussi bien ma sensibilité que ma virilité d'homme de 4 ans et 3 mois. Finalement, il ne se passa rien entre Sophie et moi. J'étais pas prêt pour une relation avec une femme plus âgée. Plus tard, mon parcours fut plus mouvementé. Il faut dire que plus j'avançais en âge, plus mon sex-appeal devenait insupportable. Insupportable pour moi, obligé de m'arrêter devant chaque miroir pour me féliciter d'être moi. Insupportable pour les autres qui, chaque fois qu'ils me croisaient, souffraient de ne pas pouvoir, en toute liberté, m'étreindre et partager dans mes bras un moment de pure sexualité bestiale et divine à la fois. Mon corps était une promesse de volupté. Mon torse au contour mythologique donnait le frisson. Le calme de mes cuisses laissait deviner la perspective d'un marathon sensuel des plus éreintants. Quant à ma démarche, saccadée par un fouetté de bassin arrogant mais maîtrisé, elle annonçait avec certitude une qualité de saillie digne des plus grands haras. J'avais 9 ans. 9 ans et toute la fougue d'une jeunesse. Jeunesse qui, alliée à une générosité sans bornes, donna du bonheur et du plaisir à des milliers d'individus humains, et parfois non. Mais là où j'ai atteint mon pic de séduction et de fracas érotique, oui, c'était l'année de mes 21 ans. Physiquement, j'étais digne de l'Olympe. Un corps bardé de muscles saillants et vibrants, un regard qui aurait mis le feu à la plus ineffugée des vertus. Le tout au service d'un appareillage génital digne des plus belles mécaniques industrielles des années 40. À base de pistons, de roulements habillés, de culasses, le tout huilé à souhait pour assurer en toute quiétude une besogne érotique de longue haleine, sans craindre, malgré la surchauffe étouffante, l'embrasement des tissus. À l'époque, on m'appelait le consul de l'amour. Et c'est à cette époque, et vous allez voir, c'est incroyable, Philippe Besson, c'est à cette époque que j'ai presque vécu une aventure comme celle que vous avez décrite, page 99, 100 et 101 de votre livre. Je vous cite, on montait au premier étage de l'hôtel particulier, on rejoint ma chambre, l'amour se fait dès la porte fermée, pas de préliminaire, pas de conversation badine, des mains qui s'emparent des visages, des bouches qui mordent, des vêtements qu'on retire, des doigts qui caressent, des queues qui se dressent, et puis la suite. Et vous qui, après l'amour, demandez à votre partenaire, tu es venu vers moi pour le cul, et votre partenaire de répondre « Non, c'est à cause de ton intelligence. C'est irrésistible, l'intelligence. L'intelligence, moi, ça me fait bander. » Alors moi, c'était plus... On prend l'escalier, on rejoint ma cave. L'amour se fait même la porte ouverte. Et puis, presque comme vous, pas de préliminaire, pas de conversation badine, des mains qui s'emparent des visages, des bouches qui hurlent, des vêtements qu'on déchire, des gifles qui partent, des corps qui se tambourinent, et puis... La suite. Après l'assaut final, je suis allongé sur la terre battue de ma cave insalubre, ma chemise en satin jaune, moitié arrachée, mon pantalon en sky mauve, enroulé autour de mes chevilles meurtries. Je prolonge la magie de l'instant en mettant en fond sonore le best-of d'Herbert Léonard et demande d'un air aussi sensuel que convaincu à ma partenaire de rute, le corps encore tremblant d'amour et l'œil rempli de reconnaissance, tu es venu pour moi ou pour le cul? Et là, elle me répond, non, c'est à cause de ta connerie. C'est irrésistible, la connerie, moi, ça m'excite. Eh oui, on a toujours eu des rapports très directs avec Leïla. À demain. Merci de
vous voir. La bande originale. Je m'en souvenais plus.
Il y a des choses qu'on préfère oublier.
Oui, c'est vrai, j'ai occulté.
Le nouveau roman de Philippe Besson s'appelle Un certain Paul d'Arrigrand chez Julliard. Quel est l'avenir? Est-il tout tracé pour vous dans les semaines, les mois, les années qui viennent, Philippe?
Non, je ne sais pas ce qui me réserve l'avenir. On verra bien. J'écris un nouveau livre qui relève encore de l'autofiction. Donc, ça veut dire que je suis dans ce chemin que j'ai commencé à emprunter il y a 2 ans. Et voilà, l'avenir, c'est pour l'instant, c'est les livres.
Parlons de la polémique consiste à votre nomination au poste de consul général de Los Angeles. Ouais. C'est Emmanuel Macron qui l'a prononcé. C'était à la fin du mois d'août. L'histoire s'est un peu arrêtée en cours parce qu'il y a une plainte qui a été déposée par
un
syndicat du Quai d'Orsay pour contester cette nomination qui est vue en fait comme un cadeau suite à votre livre, le personnage, un personnage de roman et à votre soutien pendant la campagne présidentielle. C'en est où?
Alors, c'en est qu'on attend l'issue de ce recours. Alors, le recours, il n'est pas contre moi.
Il est contre la nomination.
Absolument. Enfin, contre le fait qu'on puisse décider que les consuls généraux ne soient plus seulement des fonctionnaires. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, à la différence des ambassadeurs qui ne sont pas forcément des fonctionnaires, les consuls généraux doivent être des fonctionnaires.
Ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas avoir eu une expérience préalable en diplomatie, de faire partie du corps.
Absolument. Et donc, du coup, un décret a été pris pour permettre que, justement, on puisse nommer au poste de consul des artistes, des humanitaires, des chercheurs, des des enseignants, etc. En tout cas, pas seulement des gens issus du Quai d'Orsay. Et les syndicats du Quai d'Orsay se sont effectivement opposés à ça et donc ont déposé un recours auprès du Conseil d'État pour faire annuler ce décret. Donc, de deux choses. Une, soit le décret est annulé, ce sera, je pense, à l'été. Soit le décret est annulé et l'histoire s'arrête là. Soit le décret est validé par le Conseil d'État et il est possible que, à ce moment-là, je reprenne les conversations avec le président de la République et que je me retrouve à Los Angeles. Nous
vous en avez
bien
toujours envie.
Oui, j'en ai envie.
Malgré tout ça, vous en avez envie. Oui.
Parce que les critiques ont été terribles. Vous l'avez dit. Oui. Vous en avez parlé beaucoup dans les interviews. Oui. Vous avez été vraiment.
Oui, c'est très blessant.
Vous dites cloué au pilori, jeté au chien.
Oui, en fait, je vais vous dire, ce qui est blessant, c'est pas la polémique en soi. Bon, on en vit tous des polémiques. C'est pas gênant. Ce qui était gênant là, c'était la très grande violence et me semble-t-il très disproportionnée de la polémique. Mais surtout le fait que j'ai eu droit à un procès stalinien à la première minute, c'est-à-dire que grosso modo j'ai été déclaré incompétent et illégitime à la première minute. C'est-à-dire que j'avais même pas le droit de m'exprimer, j'étais forcément incompétent et illégitime. C'est drôle parce que une journaliste qui m'a interrogé il y a pas longtemps m'a dit au fond on vous a traité comme une femme.
Belle pirouette. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Bah oui. Une femme, quand elle accède à une position de pouvoir, la première chose qu'on lui dit, c'est madame, vous pouvez pas y aller parce que est-ce qu'elle est légitime, est-ce qu'elle est compétente? Et le fait même de poser la question démontre qu'évidemment, on pense qu'elle ne l'est pas.
Un certain Paul d'Arrigranchet, Julien, une histoire d'amour où vous êtes l'amant qui vient un peu bouleverser l'ordre établi du couple entre Paul et sa femme qui se prénomme Isabelle.
Absolument.
C'est ça. De mémoire. Et puis, l'histoire aussi de cette maladie, mortel qui vous touche avec même une sorte de suspense, je sais pas si le mot est approprié, une épée de Damoclès. En tout cas, on ne sait pas quelle est cette maladie, on sait que vous risquez la vie, toute la convalescence et la résilience qu'il peut y avoir après, et ce regard aussi bien des autres que soi-même sur sa propre situation. En tout cas, que l'on ait ou pas vécu de telles histoires d'amour, que l'on ait ou pas vécu de telles maladies graves, ce livre est touchant et utile aussi. On y a une sorte de carpe diem qui en ressort. Merci mille fois d'être venu.
Merci infiniment, Nagui. Merci à vous tous.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien évidemment. Désolé déjà pour Niort, Rouen et toutes les villes dont l'architecture a été sacrifiée, que la culture a oublié, que la beauté a snobé, que Philippe Besson a insulté. Bon courage pour les signatures en province, mon Fifi. Désolé pour Léo, le chat chiant de Philippe Besson. Alors, Léo, j'ai parlé à ton maître à la pause. Après réflexion, il a décidé de te mettre dans un sac plastique et de te jeter dans la Seine. Salut l'artiste. Désolé pour tous les couples qui croiseront à l'avenir Philippe Besson. On s'en doutait un peu, mais on a eu la preuve et la confirmation avec son dernier livre et l'émission de ce matin. Philippe Besson est un salaud qui ne respecte ni l'institution du mariage, ni l'amour des autres.
Au contraire.
Vous êtes un monstre, je suis bien d'accord avec Patrick Besson. Et désolé enfin pour la mâchoire, la langue et les dents de Lana Del Rey qui, on l'a réentendu ce matin, sont toujours paralysées. Oh là 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 là, le carnage.
Une chanson avant de se quitter quand même, parce qu'il n'y a pas de raison que l'on... Joyeux anniversaire, Philippe Besson.
Merci infiniment.
Ça fait très consulat de Los Angeles.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Marilyn qui me souhaite mon anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oui.
On est déjà à Los Angeles.
On est déjà à Los Angeles, oui, c'est ça.
27 ans.
Bon anniversaire. Demain, Chiara Mastroianni et Samir Ghesmi sont nos invités. Tout de suite, pardon pour ce retard, Philippe Bertrand et les carnets de campagne.
Non, mais c'était bien. Salut les amis. L'anniversaire, Kennedy en plus.
Ouais, pas mal. Classe.
Il est fort.
Et puis je rassure Philippe, on se console facilement de ne pas être consul.
Bon, ça va, alors je me rassurerai, je me consolerai.
Console consul, très bien, on a noté.